France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Romancier star de la littérature jeunesse, il publie cette fois un roman pour un lectorat adulte, Une vie entière. Timothée de Fombelle sera mon invité à partir de 13h. Mais d'abord un autre Timothée au menu du plateau critique du jour, Timothée Chalamet, à l'affiche de Marty Suprême, le nouveau film de Josh Sabdi. Et puis on parlera du mystérieux regard du Flamant Rose, premier film du réalisateur chilien Diego Céspedes, et pris un certain regard au dernier festival de Cannes. Vous écoutez les midis de culture, à mots doux, je peux le dire. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Sandra Onana, journaliste et critique à Libération, bonjour.
Bonjour.
Guillaume Aurignac, critique, auteur et réalisateur, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
J'ai un objectif. Si tu crois que c'est une bénédiction, tu te trompes. Ce que je veux dire, c'est que je suis obligé de voir tout ce qui se passe en un dixième de seconde, et cette obligation exige des sacrifices. Ma vie part en morceaux, mais je vais m'en sortir.
Tu as besoin d'aide? Je peux t'aider.
Je sais que c'est difficile à croire, mais je te le jure, ce jeu remplit des stades à l'autre bout du monde. C'est qu'une question de temps avant qu'on me retrouve en photo sur les boîtes de céréales.
Et on commence avec Marty Suprême du réalisateur Josh Sabdi, désormais séparé professionnellement 100 ans de son frère Benny. Dans les années 50, Marty est un jeune juif new-yorkais, sans le sou mais plein d'ambition. Son rêve, devenir champion de tennis de table, alors que le ping-pong n'est même pas considéré comme un sport de ce côté-là de l'Atlantique. D'ailleurs, les matchs se jouent dans des sous-sols miteux et ressemblent à des combats clandestins entre exclus du capitalisme triomphant d'après-guerre. Marty ne peut compter que sur son audace, qui confine pour ceux qui l'entourent à l'aveuglement. Pour ce rôle survitaminé, Chalamet a déjà remporté un Golden Globe et il concourt à 30 ans pour l'Oscar du meilleur acteur. On commence avec quelques mots, Sandra Onana.
Je trouve que c'est un film brillant sur les laideurs du rêve américain. Je trouve que ça fourmille d'une richesse dingue. Moi, j'y pense tout le temps depuis que j'ai vu. Je trouve que c'est extrêmement nourrissant et à revoir.
Guillaume Aurignac.
Oui, brillant, c'est le mot. C'est un décalque très optimiste, enfin plus optimiste en tout cas que le film précédent de Josh Sabdi qu'il avait tourné avec son frère, qui était Uncut James. Plus optimiste parce qu'il y a une sorte de renversement, puisqu'il utilise un peu quelque chose qui mobilise un peu plus secrètement le film, et ça va lui servir à renverser le regard, le portrait qu'il fait de son personnage principal.
Alors Sandra Onana, vous y pensez tout le temps?
Non, j'y dis tout le temps, mais en tout cas, moi je le trouve supérieur à Uncut James. C'est marrant qu'il y a un film que j'ai eu du mal à revoir. J'ai voulu le revoir parce que on peut se dire il y a un peu une recette où on a déjà vu ce film des frères Sabdi. On retrouve ce principe frénétique du cinéma comme la fuite en avant sous adrénaline qui est là portée à épuisement. Je parlais de saturation. C'est un film dans lequel il y a plein de mini-films à l'intérieur. On pourrait dire qu'il y a il y a le film de sport effectivement, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle presque jamais comme un biopic sportif. Ce dont j'entends presque jamais parler. C'est inspiré de la vie réelle de Marty Reisman, qui est un vrai sportif, un vrai pongiste des années 50. Mais en fait, le film vit sa vie indépendamment de la vie dont il est inspiré et on n'en entend presque pas parler. Donc il y a ce film de sport, il y a un film de mafia, il y a un film de liaison avec une actrice qui a perdu sa splendeur. Il y a un mini-film que j'adore à l'intérieur du film, qui est le film de combine entre deux copains, le juif et le noir du Lower East Side new-yorkais, qui me rappelait par certains aspects The Brutalist, qui est un autre film sur la quête de grandeur d'un juif dans l'après-guerre. Donc tout ça remet en jeu ce personnage de minable magnifique qui est vraiment un archétype du cinéma des Sabdi, mais qui là prend une ampleur et un écho supplémentaire. Avec ce rôle qu'a pris Timothée Chalamet comme acteur mais aussi coproducteur du film et qui a surjoué une sorte de confusion entre le rôle et lui-même dans une promotion extrêmement agressive. Et ce qui fait du film, c'est vrai, une sorte de prototype du cinéma d'auteur américain au moment où il est en train de s'effondrer aux États-Unis, propulsé avec une force qui fait qu'en le voyant, moi j'en doutais, je finissais par me dire est-ce que je vais voir une boîte de conserve ou un film film avec une âme, et c'était extrêmement consolateur de me rendre compte que c'était un film avec une âme.
Le pari était, était risqué en fait, au départ, Guillaume Arignac.
Le pari est risqué au sens où faire venir Timothée Chalamet dans le cinéma des Savdi, c'est faire venir une sorte de figure de la performance, quelqu'un qui veut conquérir le monde comme acteur, comme star, et peut-être que ça met peut-être trop de protéines à l'intérieur d'un film qui adore la fragilité aussi, d'un cinéma qui adore la fragilité, parce que il y a des frottements d'archétypes en fait dans ce cinéma-là. Ça démarre toujours sur un portrait de personnage qui est donc pour moi assez proche effectivement du personnage précédent qui était joué par Adam Sandler dans Uncut Gems, c'est-à-dire l'espèce de hustler, le parieur professionnel, le type un peu frénétique donc qui abandonne tout, le repos, la lucidité, l'amour au profit du frisson, d'être toujours au bord du précipice, et ce qui fait que ça amène effectivement, comme le dit Sandra, plein de microfilms à l'intérieur de ce grand film, les microfilms qui sont en fait constitués par une série de sous-épreuves que doit surmonter le personnage principal pour obtenir son objectif, réaliser son ambition générale. Donc là, il y a quelque chose qui est cet archétype-là du rêve américain qui est frotté avec autre chose, comme d'habitude chez Safdie, qui est vraiment une matière documentaire, c'est-à-dire l'ethnographie du monde underground new-yorkais. Alors ici, ça va être l'univers du ping-pong à New York dans les années 50. Et cette ethnographie, ça lui permet de faire venir des visages qui ne sont pas des visages d'acteurs professionnels, donc des visages d'acteurs amateurs, et donc des visages cabossés, avec des dictions un peu différentes, anarchiques. Voilà. Et cette espèce de frottement, de greffe du documentaire à l'intérieur d'une dramaturgie fiévreuse, ça fait un peu tout le prix de ce cinéma-là. Mais surtout, ça mobilise quelque chose qui, à mon avis, est très beau, qui était un peu en sous-texte dans Uncut Gems, mais qui, là, est un peu plus relevé dans celui-là. Puisqu'évidemment, ça se passe en 52, le personnage est juif, et en 52, c'est après la Shoah. Et il y a toute une série d'allusions là-dessus, et notamment il y a une scène dans la première partie du film quand il fait le championnat à Londres, le championnat du monde de tennis de table à Londres. Il a un partenaire de jeu qui est un juif hongrois qui a survécu de son enfermement à Auschwitz, et qui à un moment raconte cette scène-là. Il va se promener dans la forêt quand il est à Auschwitz. Enfin, il a l'occasion d'être dans la forêt quand il est à Auschwitz, et là il tombe sur un nid de guêpes. Il va ramener du miel, se le mettre sur le torse. Et le soir même, on voit l'image est saisissante, malaisante. Ses compagnons de baraquement, d'infortune, vont lécher son torse pour lécher du miel. Et on se demande, mais à quoi sert cette scène-là? Parce qu'elle est complètement détachée du récit. Et en fait, on comprend progressivement, alors peut-être fausse piste au départ, que le personnage de Marty, donc un personnage juif, et que peut-être c'est le personnage de la vengeance, de la reconquête face à l'humiliation que le monde juif a subie pendant la Shoah. Et on comprend progressivement que cette vengeance est une fausse piste, en fait. C'est pas ça qu'il doit faire pour renouer avec le monde juif. C'est au contraire d'assumer la fragilité du monde juif. Et c'est globalement toute la trajectoire de ces personnages-là qui est une trajectoire un peu de défaisance de ses ambitions initiales pour assumer sa fragilité et reconquérir, retrouver l'affiliation avec le monde juif. Et le film de ce côté-là est vraiment sublime.
Sandra Onana.
Ouais, il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui a dit. Alors, parfois, ça peut être piégeux de lire les interviews de cinéastes. Ça peut nous abîmer un peu les rêves ou les délires qu'on se faisait sur leurs films. Mais il se trouve que les interviews de Josh Safdie sont très intéressantes. Il disait qu'avec ce film, il pensait beaucoup. La musique du film est assez anachronique. C'est de la musique plutôt années 80. En
Tears for Fears, etc.
Voilà. Mm. Et pour un film qui se passe dans les années 50, et il disait qu'il s'était un peu imprégné de souvenirs qu'il avait d'une Amérique post-défaite du Vietnam où Reagan arrive et essaye de raviver un rêve américain qui lui paraissait plus fake, et il disait c'est comme si c'était le rêve américain entre guillemets. Et je trouve que c'est une clé intéressante, le entre guillemets, quand on regarde le film, c'est que effectivement on peut prendre premier degré ce récit de la quête de la gloire d'un joueur de ping-pong. Rien, ping-pong c'est tout un programme déjà, c'est-à-dire c'est tellement dérisoire comme sport dans l'imaginaire, et en même temps ça va convoquer des scènes de championnat qui sont filmés comme des scènes de boxe. On a vu des images qui faisaient penser à Raging Bull, même ces petites salles d'entraînement avec effectivement des tronches burinées. On pense au trope du film de boxe avec la salle où on s'entraîne. Et donc cette idée du entre guillemets, j'ai l'impression que ça désigne cette manière qu'il a de d'abâtardir ce qu'il va présenter, de dégrader ce qu'il va présenter comme grand, mais qui en fait, comme d'habitude, part en fumée. À peine, il y a ce principe de la possession qui est toujours qui est suivi d'une remise en jeu et qui va toujours se solder par quelque chose qu'on perd immédiatement. Il y a un principe de fièvre maximale et de liquidation immédiate. Mmh. Et ça rend le film épuisant parce qu'il se gonfle, il s'enfle, mais au bout d'un moment, on sait plus quels sont les enjeux de ce championnat qui est si important, qui tient aux tripes de ce personnage et qui, en fait, va se jouer, je veux rien divulguer du film, mais sur des simulacres, des espèces peut-être de victoires bidons, mais qui deviennent des victoires symboliques, au point que l'enjeu du film va même se déplacer sur ce qui serait ce que le personnage fuit dans le film, qui serait l'hypothèse de sa paternité, puisqu'il a cette amie d'enfance folle amoureuse de lui qui lui dit je porte un enfant, et lui dit moi j'ai un purpose, comment on dit, un but dans la vie, toi tu n'en as pas. Ce qui est extrêmement violent, ironique quand il lui dit ça, puisqu'elle est censée porter son enfant et avoir un but de mère qui se dessine pour elle. Je trouve que tout ça est d'une subtilité dingue et d'une richesse dingue qui font, sans avoir envie de mettre les deux frères en compétition, mais on est un peu obligé, puisqu'effectivement c'est leur premier film séparément, Benny Safdie qui a sorti Smashing Machine l'année dernière, un film sur le MMA, qui était un film touchant et sympathique, mais qui donnait l'impression d'être un film qui parlait de ce dont il parlait, c'est-à-dire c'était un biopic sur un sportif qui était confronté à la lose. Et donc, ça parlait de ça. Et ce film-là, j'ai l'impression, de Josh Safdie, est un biopic de sport sur le ping-pong qui donne l'impression de parler de mille autres choses que ce dont il parle, en fait.
Alors, il faut parler donc de Timothée Chalamet, qui concourt, je l'ai dit, pour l'Oscar du meilleur acteur. Guillaume Meurignac, qu'est-ce que vous pensez de sa prestation ?
Elle est évidemment brillante. C'est évidemment, aujourd'hui, on peut considérer comme un acteur, un des plus grands acteurs de sa génération. Et bon, je lui souhaite d'avoir les Oscars, parce que ça va probablement le détendre un peu.
Je trouve qu'il a besoin d'être détendu.
Il est vraiment complètement tendu par cette question d'avoir tous les trophées possibles et d'être le plus grand acteur de sa génération. Alors je trouve que c'est un peu le problème que peut avoir le film, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que ça ne respire pas. Du coup, à cause de ça, qu'il y a constamment cette espèce de démonstration performative du talent de Timothée Chalamet, alors qu'il peut servir le personnage, mais justement, c'était pour moi plus intéressant dans Uncut Gems avec Adam Sandler, qui est quelqu'un qui, à l'inverse de ça, qui investit les films toujours de manière un peu débonnaire, avec sa personnalité propre à lui. Et je trouvais que ça fonctionnait mieux parce que ça faisait un personnage très étrange dans ce système de frénésie propre au Safdie. Et d'ailleurs, ce que dit Sandra sur l'autre film, donc, de Benny Safdie, Smashing Machine, que moi j'aime beaucoup, parce que justement, il va dans une autre direction. Et en fait, c'est les deux directions réunies étaient peut-être plus intéressantes. Et l'autre direction, c'est de montrer des corps éberlués, des corps qui ne savent pas exactement ce qu'ils font là. Alors que là, on voit bien exactement où est Timothée Chalamet. Il est là pour avoir son Oscar.
Sandra Onana, un dernier mot?
Non, cet Oscar, moi, je pense qu'il va l'avoir. Je pense que, effectivement, on a pu gloser un peu sur ce qui appartenait à chaque frère dans le geste de cinéaste. C'est vrai qu'on les a pris comme un duo. C'était une entité, les Safdie. Et ce qui ressortait un peu, c'est que l'empathie, le sentimentalisme presque venait de Benny, l'espèce de brillant, de frénésie, etc. C'était Josh. Sans trancher là-dessus, en tout cas, c'est vrai que l'espèce d'environnement très bruyant, commercial, cynique, qui a existé autour du film et du personnage Chalamet, joue un peu contre ce storytelling. C'est un personnage, effectivement, qui a la rage, en fait. C'est un personnage qui a la dalle, et c'est pour ça qu'il veut la gloire. Il porterait dans son corps cette mémoire d'humiliation de l'histoire, et qui partage, en plus, c'est assez beau, avec un autre perdant de l'histoire, qui est un Japonais, qui est son grand concurrent, qui est muet. C'est une super belle idée, mais tout ça incarné avec un esprit de gagne et de win par effectivement cette idole du star system qui a pu faire un peu écran.
Marty Suprême de Josh Safdie en salle aujourd'hui. Alors c'est un jingle coup de cœur, mais aujourd'hui Guillaume Aurignac, on déroge un peu à la règle.
Oui, c'est pas vraiment un coup de cœur, c'est un coup de Trafalgar qui a fait trembler les murs d'Hollywood la semaine dernière. La cause de cette odeur de poudre, eh ben, c'est 15 secondes d'une vidéo où Brad Pitt et Tom Cruise se battent à main nue sur le toit d'un immeuble en ruine. Sauf que cette scène n'a jamais été tournée. Un cinéaste irlandais, Rory Robinson, a tapé deux lignes de code dans Seedance 2, un modèle d'intelligence artificielle spécialisé dans la génération de vidéos, et en quelques minutes, cette séquence d'action inédite a vu le jour. Le scénariste américain Rhett Reese l'a commenté d'une phrase laconique: c'est probablement fini pour nous. Nous, c'est-à-dire tous ceux qui fabriquent des films à Hollywood. Car outre les problèmes juridiques posés par cette vidéo, la menace est réellement existentielle. En deux lignes de commande, un créateur peut aujourd'hui générer une séquence qui nécessite habituellement plusieurs dizaines de personnes pour être fabriquée. Et qui met en scène surtout des clones d'acteurs connus. Les stars hollywoodiennes vont devoir désormais lutter contre la dépossession de leur propre corps par des répliques numériques. Mais cette hantise de la dépossession, eh ben pour moi, elle n'est pas tout à fait neuve. Elle portait jusqu'à présent un autre nom, ça s'appelait le vieillissement. Parce que le corps de la star de cinéma, c'est un corps glorieux, c'est un corps qui est fixé pour l'éternité de l'image dans un état de vitalité indestructible. Et le vieillissement, c'était jusqu'ici la menace suprême pour les stars. Voir sa représentation qui était progressivement colonisée par le corps flétri qui allait remplacer l'icône. Contre cette inexorable dégradation, elle luttait à coups de bistouri ou de retouches numériques. Et voilà que l'IA leur offre enfin la jeunesse perpétuelle, mais au prix d'une dépossession totale. On ne retouche plus la star, on la remplace. Alors, par un retournement vertigineux, c'est peut-être le réel, avec tout son poids de rides et de cicatrices, qui va devenir l'âme de résistance contre ces répliques numériques. Si vous regardez Brad Pitt et Tom Cruise, justement les deux protagonistes de cette vidéo fantôme, eh bien, dans leur dernier film, F1 pour l'un et Mission Impossible pour l'autre, ils ont choisi de mettre en scène leur propre usure. Dans une des séquences du film, Tom Cruise, 63 ans, il s'est accroché à l'aide d'un avion en montrant avec insistance comment le souffle de l'air déformait son visage jusqu'à faire rouler le botox sur la peau, sous la peau. C'était une manière d'authentifier la réalité de sa chair à travers l'épreuve physique avec laquelle il la soumettait. Justement, la prochaine cérémonie des Oscars, il y a deux des films qui sont les plus attendus, qui partent sur une même exigence de vérité. L'un, c'est One Battle After Another, et l'autre, c'est Marty Suprême, dont on vient de parler, où là, on retrouve, à côté des stars, des acteurs qui n'en sont pas, du moins professionnellement, c'est-à-dire des personnes venues du monde profane, extérieur à celui du cinéma. De quoi montrer à l'image des corps ordinaires et naturels, avec des rides, des boutons, un peu de gras, de grandes oreilles, et une dentition anarchique. Tout ce que Hollywood n'arrive plus à produire sur ses chaînes de montage. Et donc voilà le grand paradoxe. Au moment où l'IA peut fabriquer n'importe quel visage, le cinéma redécouvre la valeur irremplaçable de la chair vivante et des aventures de la peau. Comme si pour prouver qu'on est encore réel, il fallait maintenant mettre en scène ces altérations physiques.
Merci Guillaume Aurignac.